16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnalités qui ont marqué l'histoire du champagne ou qui ont une passion pour les fines bulles. Après, la veuve Cliquot et Dom Pérignon, Mathieu, c'est avec beaucoup d'émotion que vous apprêtez à brosser le portrait d'une autre grande amatrice de champagne qui est notre invitée ici présente, Amélie Nothomb. Émotion, 42 ans de carrière radiophonique, c'est quasiment la première fois que vous faites son portrait.
Oui, quasiment Stéphane, quasiment, puisque c'est seulement le 12e portrait consécutif d'Amélie Nothomb que je vous livre. Elle connaît par cœur maintenant le cheminement classique de mon portrait, qui tourne toujours grosso modo autour de trois axes. 1. Le coup de foudre imaginaire survenu soi-disant entre nous au bar en face d'Europe 1 avant l'émission. 2. Sa prise de conscience que finalement le mariage auquel elle était auparavant réfractaire n'est pas une si mauvaise idée, surtout si c'est avec moi. Séquence à l'issue de laquelle je demande à Amélie de partager sa vie et ses droits d'auteur avec moi. Elle répond... Enfin, 3, lune de miel à Fukushima. Illustrée par une musique chinoise, mais ça, Amélie me pardonne, car si elle-même, ce n'est pas pour mes compétences en géographie. Reprenons les bonnes habitudes. Alors, bon, aujourd'hui, Covid oblige, ce n'est pas au bar d'en face d'Europe 1 que notre coup de foudre a eu lieu, Amélie, mais sur le parking. Amélie sortait de sa Bentley, j'ai baissé ma vitre. Oui, j'ai pas les vitres électriques sur la Punto, c'était en option. J'ai attiré votre attention d'un coup de klaxon aussi élégant que discret. Nos regards se sont croisés, et pour la 12e fois, malgré les masques, le coup de foudre a eu lieu. Vous n'hésitez pas à affirmer, Amélie, que le champagne est votre premier amour. J'ai la prétention de croire que je serai le dernier. Évidemment, par égard pour les auditeurs fidèles qui se sont déjà farcis mes 11 précédents portraits de vous, on va accélérer sur certains passages de votre biographie. Pour tout ce qui est votre enfance à Osaka, votre papa consul et vous qui finissez les coupes de champagne des invités plutôt que les Ferrero Rocher, je renvoie à ma chronique 3 du 27 novembre 2012. Pour toute la partie staccanovisme, méthode de travail délirante à base de 9 heures d'écriture par jour, je renvoie à la chronique 7 du 16 octobre 2015. Vous la trouverez facilement en tapant les mots-clés « Encore un triomphe pour Mathieu Noël, le nouveau Gad Elmaleh ». En revanche, les âmes sensibles et surtout la personne qui partage éventuellement votre vie, Amélie, éviteront soigneusement la chronique 9, la plus licencieuse, puisqu'après une nuit d'ivresse dans un love hotel de Sapporo, vous accouchiez 9 mois plus tard de notre enfant, Akira Nothomb Noël. Voilà, j'avais d'évidence contrevenu à une de vos règles sacrées, Amélie, qui concerne normalement les cocktails au champagne, je vous cite, « savoir se retirer au bon moment ». Et c'est vrai, contrairement à Stéphane qui lui ne sait pas dire stop au serveur qui lui propose un 15e refil de Dompé et qui ressort donc de chaque cocktail la France Télévisions dans un état aussi déplorable, vous l'avez entendu, que les monuments qu'il s'échine à sauver.
In the Navy.
Vous savez toujours vous arrêter à temps. En 2014, vous serez même retiré de votre propre chambre d'hôtel où vous receviez des amis pour aller vous baigner seul, totalement rôti, dans le lac d'Annecy. Je n'invente pas, vous l'avez raconté dans Femme Actuelle, c'est vrai ça?
Qu'est-ce que c'est que cette
soirée? C'est la pire cuite de toute ma vie.
Dans le lac d'Annecy?
C'est-à-dire que j'avais provoqué en duel... comment il s'appelle? Yann...
Yann Moix?
Non. Yann Kefelec. Voilà.
Vous avez provoqué Yann
Kefelec? Je l'avais provoqué en duel. J'étais déjà ronde quand je suis arrivée. Et je l'ai provoqué en duel. Évidemment, il a gagné. Alors, on m'a raccompagnée dans ma chambre d'hôtel. Mais ma chambre d'hôtel, c'était un palace qui donnait sur le lac. Et moi, j'étais très en forme. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'ai un total blackout de ma mémoire. Mais je crois que j'ai fait des trucs incroyables parce que je me suis réveillée au petit matin, toute nue, avec mes chaussures mouillées. Donc je pense que je suis allée me jeter dans le lac, je sais pas avec qui, parce qu'on a fait un appel à témoins, on a eu tellement de témoignages discordants que je préfère ne pas savoir ce que j'ai fait cette nuit-là.
J'ai les photos exclusives pour vous à la fin de la chronique, je vous les remets. Reste cette insatiable passion pour le champagne. Il est, Amélie, au cœur de votre vie, comme il est au cœur des longues journées d'été chez Stéphane Bern dans sa villa de Paros.
Les après-midi se passent au bord de la piscine à siroter des cocktails et le soir venu, des prostituées font leur entrée pour divertir.
On ne veut pas tout savoir. Non, avec un peu de chance, ça sera prescrit en 2021. Croisez les doigts. Avec Amélie, on vous laisse. On doit passer à la phase 3 de mon portrait. Cette année, pas de lune de miel à Fukushima. Direction Reims. Mamie s'est décidée. Je vends la Punto et je t'achète un vignoble. Car oui, Stéphane, le grand rêve d'Amélie Nothomb, ce n'est pas d'avoir une école, un lycée ou une piscine municipale à son nom, comme d'autres, mais un champagne. Et pour qui a le loisir de songer à sa postérité, il faut reconnaître qu'imaginer dans 50, 100 ans, des gens s'exclamer j'ai bu un délicieux Nothomb hier soir. C'est quand même beaucoup plus flatteur que j'ai chopé une mycose dans le pédiluve de la piscine à Amélie Nothomb. Va donc pour le vignoble. en diamant, Caramilla. En plus, t'as de la chance, j'ai pris l'option radio cassette sur la Punto, et comme je connais tes goûts, j'ai évidemment pris l'intégrale de Tool.
Je fais cette merde.
Ce n'est pas de la merde, Stéphane, c'est Tool, le groupe de métal préféré d'Amélie. Essaye de respecter un peu l'invité. J'ai l'impression, Amélie, que Stéphane n'est pas très métal.
Vous savez que Tool, ils ont des vignobles dans le Colorado, mais je pense pas qu'ils fassent du champagne.
Ah non, ils font pas pas de champagne, mais des vignobles, comme ça vous fait un point commun supplémentaire avec eux.
Ça, c'est génial. Vous avez tout à fait raison, je rêve d'avoir mon vignoble.
On dit un mot de votre livre, Amélie Nothomb.
Bah oui, ce serait bien.
Comment c'est possible d'écrire un livre aussi bon chaque année? Enfin, où cherchez-vous votre inspiration et que sont ces mauvais romans qui sont dans les tiroirs, enfin, qui sont pas dignes d'être publiés selon vous? Franchement, j'ai un doute.
Mon cher Mathieu, vous me posez 15 questions à la fois.
C'est vrai.
La seule réponse que je peux vous donner, c'est qu'il n'existe qu'un seul secret, qui consiste à ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que le grand secret de l'inspiration, c'est de se rendre compte qu'elle est un mouvement, une espèce de mouvement perpétuel, et que, à la condition que vous ne cédiez jamais à la tentation de la stagnation, ce mouvement peut ne jamais s'arrêter. À l'instant où je finis un roman, je saisis un nouveau cahier et je commence tout de suite le roman suivant.
Et en même temps, elle répond au courrier qui lui arrive chez Albin Michel.
Mais voilà, ouais.
En parlant de votre livre, que l'on peut aussi offrir, hein, le vol, les aérostats, c'est l'histoire d'Ange, une étudiante belge de 19 ans qui va faire découvrir la littérature à un jeune homme de 16 ans, dyslexique et malheureux. Ange, c'est un peu vous.
Complètement. À 19 ans, j'étais exactement cette étudiante bruxelloise d'un sérieux dramatique, d'une absence de jeunesse consternante. Je vivais dans les livres. J'ai eu d'ailleurs à cette époque beaucoup d'étudiants, puisqu'il me fallait me faire de l'argent de poche. Donc j'avais des étudiants plus jeunes que moi, plus problématiques les uns que les autres. Et je pense que j'étais un professeur terriblement vache. C'est-à-dire que j'arrive en disant « Ah, vous ne savez pas lire. Eh bien, vous me lirez l'Iliade et l'Odyssée. » Donc et c'était pas idiot, en fait, parce que provoquer les adolescents par un exercice finalement trop difficile pour eux, ça suscite leur orgueil et ça marche très bien.
Il faut lire en tout cas Les Aérostats, paru chez Albin Michel, le dernier roman d'Amélie Nothomb, pour comprendre l'importance de lire.
Europe 1, historiquement vôtre.